Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marc Doucet, je vais commenter le sujet d'annales du DCG 2021 UE6 Finances d'entreprise. On va commencer par les généralités, puis on rentrera un petit peu plus dans les détails. C'est un sujet comme d'habitude de 3 heures avec un coefficient 1. Vous aviez le droit à la calculatrice comme prévu dans cette épreuve. Alors, il y avait deux dossiers obligatoires, et puis ensuite, vous aviez le choix entre deux dossiers. Parmi les dossiers obligatoires, il y avait un premier dossier diagnostic financier sur 11 points, ensuite un deuxième dossier sur les investissements sur 5 points, et enfin, vous aviez le choix entre deux dossiers, un premier dossier sur un choix de financement de 4 points, ou alors un dossier 4, rentabilité et risque d'un portefeuille d'actions sur 4 points. Ce à quoi vous deviez répondre. Alors, soyons encore une fois dans les généralités. J'espère que vous aviez suivi les conseils que je vous avais donnés dans le live qu'on avait fait, en particulier sur les conseils et pronostics et pour la méthodologie, etc. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège de commencer par le premier dossier, sous prétexte qu'il valait 11 points. Hein, comme je le dis à chaque fois, attention, ne tombez pas dans ce type de piège. En général, que ce soit, encore que je le dis souvent, volontaire ou involontaire de la part des auteurs, le sujet qui vous rapporte le plus de points, donc ici 11 points. Donc ça veut dire qu'il fallait à peu près la moitié du temps, 1 heure et demie pour le faire entièrement pour avoir les 11 points. Le piège est de commencer par ce sujet à vouloir le finir entièrement. Malheureusement, en général, vous mettez beaucoup plus de temps parce que c'est des tableaux de financement à retrouver. On sait, si vous avez compris le principe, on sait si on ajuste parce que on doit pouvoir retomber sur nos pieds en faisant les calculs. Et si on ne retombe pas sous nos pieds, ce qui est souvent le cas lorsqu'on fait rapidement d'un premier jet, on perd beaucoup de temps à justifier. Donc c'était ça le piège principal. Rappelez-vous les conseils que je vous avais donnés. Méthodologie, première chose à faire, répondre aux questions de cours en premier dans chacun des dossiers que vous avez choisis. Ce sont des points qui sont, eux, vite pris. En tout cas, c'est pas forcément facile, mais je dis au moins, c'est plus vite pris de prendre des points en répondant à des questions de cours qu'en rentrant dans un tableau de financement, par exemple, en entier. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va quand même regarder un petit peu plus ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, cela dit, là aussi, hein, je ne vais pas reprendre évidemment point par point la totalité de la correction, puisque, un, vous l'avez à votre disposition, et vous allez avoir des lives qui vont être donnés cet été, qui porteront là-dessus, où vous rentrerez plus dans les détails. Donc, ce premier dossier sur le diagnostic financier. Ça portait sur d'abord une première partie sur des SIG retraités. Alors, vous voyez, le genre de questions auxquelles il fallait répondre sans aucun problème, ne serait-ce que rappeler l'intérêt d'un tableau des SIG retraités. Vous voyez, donc même ça, après, il fallait commenter le tableau en vue, etc., etc., et des ratios de profitabilité. Mais ne serait-ce que ça, vous voyez, intérêt du retraitement des SIG, on répond tout de suite, allez hop, ça vaut un quart de point, un dixième de. Ah, eh ben, on a un dixième de point. Et vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est les questions de cours, il fallait répondre tout de suite. Après, on vous demandait de choisir certains soldes et des ratios de profitabilité représentatifs calculés sur 2 années. Moi, j'ai choisi des soldes significatifs, me semble-t-il, la valeur ajoutée retraitée, le BE retraité et le résultat d'exploitation retraité, puisque ça, ce sont quand même des soldes très importants, puisqu'ils portent sur l'exploitation. Et comme je le dis souvent dans mon cours, dans mes lives, dans mes parties, dans mes vidéos, partout dans les devoirs, l'exploitation est quand même ce qu'il y a de plus important, puisque c'est censé dégager le plus de bénéfices par rapport à l'aspect financier, à l'aspect exceptionnel, et le plus de trésorerie. Donc l'exploitation, on est vraiment au cœur de la finance, me semble-t-il. Après, deux ratios de profitabilité. La profitabilité, c'est quoi d'un point de vue théorique? Ça mesure la capacité d'une entreprise à générer du résultat grâce à son chiffre d'affaires. Donc, Effectivement, il existe plusieurs ratios de profitabilité. On peut faire CAF sur chiffre d'affaires, par exemple, résultat à l'exercice sur chiffre d'affaires, par exemple. Mais moi, je préférais me concentrer, hein, il y a quand même plusieurs possibilités, mais me concentrer sur l'exploitation. Donc, j'ai choisi le taux de marge brute et le taux de marge nette d'exploitation, c'est-à-dire le BE sur le CA hors taxe ou le résultat d'exploitation sur le CA hors taxe. On vous demandait ensuite de commenter logiquement les SIG retraités. Bon, mais là, je vais pas les commenter ici, c'est pas l'objet de mon intervention. Mais bon, là, grand classique, bien entendu. Et on s'aperçoit, par contre, petit détail, il fallait quand même voir que le résultat est devenu positif en 2020, essentiellement grâce au résultat exceptionnel. S'il n'y avait pas eu ce résultat exceptionnel, le résultat aurait été négatif. Donc ça, c'est quand même important à signaler. Après, on passait au tableau de financement. Alors, il s'agissait, j'avoue que j'avais pas imaginé ça, mais bon, c'est au référentiel, donc il n'y a rien à dire, sur le tableau de financement du plan comptable. Alors, c'était quand même, alors c'est rarement tombé sous cette forme-là. Puisque vous aviez en annexe, par exemple, une partie pré-remplie, notamment on vous demandait de remplir la première et la deuxième partie du tableau de financement du plan comptable, mais vous aviez un certain nombre d'informations en annexe, et donc du coup, ça permettait quand même de voir où on en était, de vous aider au niveau de l'élaboration. Alors. Mais cela dit, évidemment, pour faire ça, en général, c'est quand même assez long, hein. Tout ce qui, vous savez bien, vous avez eu l'expérience tout au long de l'année avant de passer l'examen, tout ce qui concerne les tableaux, que ce soit le tableau de financement du plan comptable ou, a fortiori, le tableau de l'OEC, à chaque fois qu'il faut le faire, mais évidemment, ça prend du temps. Vous voyez, c'était là le piège. Là, je le commande dans la foulée, mais moi, le jour d'examen, j'aurais pas fait ça tout de suite. J'aurais attendu d'avoir répondu aux autres questions d'abord. Cela dit. Première question à ce sujet, donc sur le tableau de financement, indiquer en quoi l'établissement du tableau de financement permet de compléter l'analyse de la question précédente. Bon, ben là, c'est quand même logique, hein, puisque les SIG, ça mesure en fait, encore une fois, la profitabilité, ça permet entre autres de mesurer la profitabilité, la capacité de générer un résultat. Alors que le tableau de financement, lui, il permet plus d'expliquer la variation du patrimoine et également et surtout, j'allais dire, est-ce que l'entreprise respecte les grands équilibres financiers, à savoir est-ce que le FRNG est supérieur ou pas aux besoins en fonds de roulement et donc est-ce que la trésorerie a diminué ou pas pendant l'exercice? C'est ça l'idée. Alors après, il y avait une question, justifier le montant des acquisitions d'immo corporels. Alors vous aviez le montant, et ça je trouve que de la part des auteurs, ça c'est bien, je trouve ça intelligent et sympa, parce qu'au moins vous aviez le résultat, donc ça permettait de vérifier si vous aviez juste. Alors ça, je vous ai fait un rappel du cours que je vous ai écrit et que j'ai donné dans les vidéos, dans les lives, dans les graphes pratiques, partout. Là, il fallait pas se tromper, mais c'était un grand classique, hein. Il y avait donc à la fois le problème du crédit bail, parce que il y avait, comme je vous l'ai là aussi dit dans le cours de la vidéo, dans les lives, dans les cas pratiques partout, que dans le tableau de financement, à l'origine, c'était pas prévu de retraiter le crédit bail, mais si on vous en parle dans un énoncé, et c'était le cas, et on insiste assez lourdement dans l'énoncé, il fallait retraiter, bien sûr, du crédit bail. D'accord? Donc ça, c'était le cas. Donc il y avait le problème du crédit bail et là dans le tableau de financement, dans les emplois, dans les acquisitions d'immo corporels, eh ben il faut rajouter aux achats proprement dit la valeur à neuf des biens pris en crédit bail que nous avions. Il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Et ensuite les augmentations des immo corporels au sens littéral du terme, lesquelles augmentations sont bien égales à l'augmentation en N des comptes d'immo moins la diminution des comptes d'immo corporels en cours et des avances et à-compte. Et ça, vous aviez ça dans le document 3, conformément à ce que je vous écris dans le cours, et on retrouvait bien en faisant la somme, la valeur à neuf des biens pris en crédit bail, 40 000, plus l'augmentation 133 180, on retombait bien sur nos prix 173 180. Donc, ceux qui ont eu des difficultés, il peut y avoir deux difficultés. ils se sont trompés peut-être, vous êtes trompé, soit vous avez oublié de rajouter la valeur à neuf des biens pris en crédit bail, soit vous avez oublié de retirer la diminution des comptes d'immo en cours et des avances et à compte. D'accord? Donc voilà, c'était, mais ça, c'était du cours, il fallait le savoir. Après, on vous demandait de remplir les autres postes du tableau de financement, donc du plan comptable. Bon, il y avait alors là, je vous ai mis tous les justificatifs en annexe, notamment la CAF, évidemment, bien entendu, les augmentations des autres capitaux propres, etc., etc. Je ne vais pas les commenter là. Vous avez la correction et je vous dis, vous aurez des lives à ce sujet. Mais disons que là, ce n'était quand même que du grand classique. Simplement, encore une fois, attention, rappelez-vous, ça c'est très important, quand on retraite le crédit bail, on le retraite partout. On ne retraite pas le crédit bail que, par exemple, dans les SIG. Si on retombe les crédits bail, on retraite le crédit bail donc forcément dans la capacité d'autofinancement, dans l'augmentation et la diminution des dettes financières, dans l'augmentation des immo corporels et donc dans la CAF. Hein. Soit on retraite pas du tout le crédit bail, mais si on le retraite, il faut le retraiter entièrement, pas uniquement dans la CAF, par exemple, je ne sais pas quoi, ou uniquement dans les acquisitions d'immo. Et non, parce que sinon vous déséquilibrez complètement le sujet, d'accord ? En revanche, que vous traitiez ou pas le crédit bail, retraitiez ou pas le crédit bail dans le tableau de financement, ça ne change pas la variation du fonds de roulement. Ça ne change pas, puisque le retraitement consiste à rajouter autant du côté des emplois que des ressources. Donc, de toute façon, qu'on le traite ou pas, ça s'annule. Donc, c'est pour ça que le résultat serait le même. Mais si on vous demande de le retraiter ou on vous indique de le retraiter, il faut le faire, bien entendu, même si ça ne change pas la variation du fonds de roulement net global. On est d'accord ? Donc, voilà. Donc, je ne vais pas commenter, sinon, pour rentrer dans les détails, vous verrez ça plus en détail par la suite. De la même façon, pour la deuxième partie du tableau de financement du plan comptable, où là, vous aviez un certain nombre d'indications qui étaient déjà données dans l'annexe à remplir, à finir de remplir, et également dans les documents que vous aviez, par exemple, dans le document 6, vous aviez déjà les montants du BFR conformément à l'optique du PCG. Donc, les montants étaient donnés, donc vous pouviez déjà vérifier très facilement la variation. Simplement, attention, il y avait quand même un petit piège. Quand vous voyez, par exemple, pour l'année 2020, quand vous dites que le BFRE, c'est moins 195 088, attention, le nom générique, c'est marqué BFRE, mais comme c'est négatif, ça veut dire qu'en fait, c'est une ressource ou un dégagement en fonds de roulement. On est bien d'accord, hein, puisque le BFR, d'un point de vue générique, c'est, on fait simple, les stocks plus les créances clients, moins les dettes fournisseurs, hein, pour faire simple, d'accord ? Donc, si c'est positif, c'est un vrai besoin en fonds de roulement, puisque ça veut dire que les créances clients et les stocks et les créances clients sont supérieurs aux dettes fournisseurs, donc il y a bien de l'argent dehors, donc on a bien un besoin à financer. Or, si on fait ça que c'est négatif, ben, ça veut dire qu'on a une ressource, ce qui était le cas ici pour à la fois le BFR E et donc avec le BFR, c'était des ressources en fonds de roulement. Là, il fallait pas tomber dans le piège, bien entendu. D'accord? Alors moi, encore une fois, hein, dans la correction, pour justifier chacun des montants, je vous fais un copier-coller de ce que je fais, ce que j'ai créé dans le cours, pour vous montrer qu'en appliquant ce que j'écris dans le cours, vous arrivez très facilement. Bien sûr, le jour de l'examen, vous n'aviez pas besoin de rentrer pour de justifier autant que je le fais moi, avec tous les postes. Moi, je vous mets les postes qu'il doit y avoir, et les éléments qu'il doit y avoir à l'intérieur de chaque poste, y compris quand il n'y a rien dedans. Parce que je préfère que vous appreniez quelque chose qui est vrai tout le temps plutôt que d'apprendre quelque chose qui n'est vrai que dans cet exercice. Et si je change une virgule, ça y est, vous n'y arrivez plus. En appliquant toujours la même méthode, on doit y arriver. Maintenant, bien sûr, le jour de l'examen, encore une fois, c'est pas la peine de mettre les lignes là où il n'y avait pas de rien dans cet exemple-là. On est d'accord ? Alors, après, grand classique sur les commentaires, hein, bien sûr, hein, rien de bien compliqué, parce que là, c'était quand même assez clair. Alors évidemment, quand je dis c'est assez clair une fois qu'on a rempli le tableau de financement, la première et la deuxième partie, qu'on retombe bien sur nos pieds, on est d'accord, et on comprend bien ce qui se passe, quelle était l'incidence, puisqu'on voit que le FRNG baisse et que le besoin en fonds de roulement baisse, ben ça veut dire que mécaniquement, donc, la trésorerie baisse également. Cela dit, elle baisse, mais faut pas oublier, attention, hein, le tableau de financement, ça présente bien une, ça va nous indiquer, on raisonne en variation, donc ça va donner la variation de la trésorerie. Donc ici, la trésorerie baisse, mais ça veut pas dire, par exemple, que la trésorerie est obligatoirement négative. Ça veut dire qu'elle baisse d'une période à l'autre. Mais comme elle était quand même assez conséquente au départ, c'est pas la catastrophe. L'entreprise n'est pas en danger de dépôt de bilan, par exemple. On est d'accord ? Ensuite, donc, deuxième dossier sur les investissements. Alors là, à mon sens, j'allais dire cadeau, parce que là, vraiment, il n'y avait pas de difficulté majeure. Vraiment, pour 5 points, vous voyez, moi, j'aurais commencé par ce dossier-là, par exemple, hein, parce que là, on vous demande justifier la cave d'exploitation prévisionnelle, donc, pour les exercices 2022 et 2026. Et donc, moi, je trouve qu'il n'y avait pas de souci. Et surtout, ce qui était intéressant, encore une fois, pour le coup, sujet bien fait, vous aviez, donc dans le document 7, vous aviez le montant. Donc, vous pouviez savoir si vous aviez juste. Et si vous vous trompiez, vous faisiez la différence. Et ça vous permettait quand même, je pense et j'espère, de vous y retrouver. Donc là, on n'avait pas le droit de se tromper sur la CAF, hein, franchement. Du coup, les flux nets de trésorerie, ben ça, regardez bien de la façon dont je fais la correction, c'est copier-coller ce que je dis dans le cours, dans vidéo, dans les lives, dans les cas pratiques, dans les devoirs, ni plus ni moins. Il n'y avait pas de difficulté majeure, me semble-t-il. Calculer ensuite le coût du capital, le coût moyen pondéré du capital, là aussi c'est du classique, donc vous allez retrouver les formules que je vous donne dans le cours. Il n'y avait pas d'inconnu, pas de calcul monstrueux, de perte de temps, un grand classique. En plus, on nous donnait aussi le coût du capital, on nous disait que c'est le vrai, c'est 3,3125, donc ça veut dire que on vous donnait déjà le vrai résultat exact, et après on nous dit que c'était arrondi à 3,3, donc vous pouviez là aussi savoir si vous aviez juste. Ensuite, autre question, calculer la VAN. Alors, calculer la VAN, on est bien d'accord que là aussi, sujet bien fait, c'est-à-dire que puisqu'on vous donnait le taux de 3,3%, même si vous n'aviez pas su retrouver les flux nets de trésorerie, comme on vous les donnait, vous pouviez quand même calculer la VAN ou le TRI. Accordez-moi que ça, c'était quand même sympa. C'est pas tous les ans comme ça, je vous le dis, hein. Donc là, on savait que, et on sait que on peut calculer la VAN même si on sait plus retrouver les flux nets de trésorerie. Ok, donc là, c'était quand même, me semble-t-il, assez facile, il n'y avait pas de soucis majeurs. Alors après, bien sûr, hein, alors pour la VAN, aucun problème puisque il n'y a pas d'inconnu. Et pour le TRI, bon ben là, vous utilisiez votre calculatrice ou interpolation linéaire si vous vouliez, bien entendu. D'accord. Donc voilà. Alors interprétation des résultats, puisque la VAN est positive, le projet est rentable, etc. Et donc ça veut dire que le TRI est supérieur à 3,3% puisque la VAN est positive. Donc là, rien que d'exceptionnel. D'accord. Alors après, on va passer aux deux dossiers qui étaient facultatifs. Alors ayant quand même une certaine expérience et sachant d'expérience que la plupart d'entre vous ou beaucoup d'entre vous n'aiment pas trop les statistiques, les probabilités, j'imagine. Bon, je me trompe peut-être, mais pas trop peut-être, probablement, que la plupart d'entre vous, vous avez choisi plutôt le dossier 3, c'est-à-dire sur le calcul du coût du financement, donc par crédit bail, plutôt que l'autre dossier 4 qui était sur la rentabilité des actions. Mais honnêtement, l'un comme l'autre était tout à fait classique et rien de méchant, d'accord. Donc dans le dossier du financement, question, quel est l'avantage, les avantages du choix de l'endettement et les inconvénients du choix de l'endettement? Bon ben là, bien sûr, c'est que avantage du choix de l'endettement, c'est que le, comme je vous l'ai expliqué aussi dans le cours, dans les lives, etc., dans les vidéos, c'est que les taux d'intérêt des emprunts sont mécaniquement plus faibles que le taux de rentabilité espéré par les actionnaires, tout simplement parce que en finance, la logique veut que plus on prend de risques, plus on est entre guillemets en droit d'attendre une rentabilité supérieure. Or, les établissements bancaires prennent moins de risques que les actionnaires, d'où le taux d'emprunt toujours plus faible que le taux de rentabilité attendu par les actionnaires. Donc, évidemment, on a tout intérêt à pour l'entreprise à financer ses investissements le plus possible par de l'emprunt plutôt que par de l'autofinancement. Toutefois, il ne faut pas exagérer, c'est-à-dire, et là, c'était pas l'objet de travailler sur l'effet de levier, mais encore faudrait-il que le taux d'intérêt ne soit pas supérieur au taux de rentabilité économique, sinon, au lieu d'un effet de levier, ça devient un effet massue. Mais ça, ce problème-là n'était pas demandé, d'accord ? L'inconvénient du choix de l'endettement, bien sûr, c'est sûr, c'était le complément de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si vous êtes trop endetté par rapport aux capitaux propres, ben la banque peut refuser un nouvel emprunt et où les intérêts vont finir par vous coûter cher, puisque la banque commence à dire oulala, cette entreprise commence à être endettée, si je lui prête, je veux bien, mais alors comme je prends un risque, je vais augmenter les taux d'intérêt. Donc vous voyez, il y a toujours un problème d'équilibre, comme souvent, bien entendu. Ensuite, calculer le coût du crédit bail. Alors là, vraiment, conforme exactement à ce que je vous fais dans le cours. Encore une fois, vidéo, cas pratique, le cours lui-même, etc. Je vous mets, regardez comment j'ai fait le tableau, exactement copier-coller exactement ce que je dis dans le cours. Et là, il n'y avait pas de difficulté majeure, me semble-t-il. Simplement, mais je pense que ça posera pas très honnêtement de problème le jour d'examen, dans ce dossier, dans ce document 8, on nous donnait pas le taux d'IS. Ailleurs dans l'énoncé, dans un autre document, il parlait d'un taux d'IS de, par exemple, dans le dossier 7, il précisait le taux d'IS est de 30%. Par contre, dans ce dossier 8, il y avait rien de précisé. Et comme l'énoncé disait que la base documentaire, c'était le document 8, à mon sens, il manquait dans le document 8 de repréciser que le taux d'IS était 30%. Si jamais certains d'entre vous ont pris un autre taux d'IS, de toute façon, la philosophie était correcte, mais tant que vous ayez pris 33,33%, vous n'allez pas trouver exactement ce que j'ai trouvé, mais je veux dire, ça, le raisonnement sera correct, et je suis même sûr que puisque c'est pas précisé dans ce document 8 explicitement, je vois pas qui vous pénalise si vous avez pris 33% au lieu de 30%. Moi, j'ai pris 30% parce que dans le dossier 7, ils avaient dit ça, hein. Je veux dire, c'est ça la philosophie. D'accord? Évidemment, après, donc, calculer le coût du crédit bail, du coup, c'était pas très compliqué. C'est un TRI, mais qui porte non plus sur le choix d'un investissement, mais d'un mode de financement, la même philosophie. Et ensuite, calculer le taux de revient après IS de l'emprunt, ben là, ça c'est fait. Hein. Vous voyez, ça, c'est, par exemple, c'est encore une question qu'on peut répondre tout de suite. C'est fait en 2 secondes, hein, puisque c'est le taux d'intérêt nominal, fois 1 moins le taux d'IS. Donc ça, c'était fait immédiatement. Même si vous êtes trompé sur le coût du crédit bail, on peut calculer quand même le taux de l'emprunt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, moi, il me semble que c'était 4 points, franchement, pas très difficile. Enfin, dernier dossier, rentabilité et risque d'un portefeuille d'actions, 4 points. Donc c'est des stats, hein, je veux dire. Alors, en plus, pas très compliqué, enfin surtout pas très long à faire, puisque vous n'aviez que 4 cours, que 3 rentabilité possible, donc 3 éléments pour faire les calculs. Donc accordez-moi que ça allait beaucoup plus vite. Ceci dit, il y en aurait eu 12 ou 13 ou 14 ou 25, c'était la même chose, simplement si c'était plus long, d'accord. Donc voilà, donc calculer la rentabilité, bon ben ça, c'est la variation de la cote entre 2 dates plus un éventuel dividende qui aurait pu être versé. On nous parle pas de dividende ici, donc c'est la variation de la cote entre 2 dates, tout simplement. Et donc, la rentabilité, ça, c'est pour les rentabilités mensuelles. Après, rentabilité moyenne, ben, c'est la somme des RA divisé par 3, parce que j'avais que 3 dates. Vous voyez, ça, franchement, voilà. Après, le risque du titre, ben, le risque, ça se mesure par l'écart-type. L'écart-type étant la racine carrée de la variance. La variance étant la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. La moyenne des carrés de quoi ? Ben, la moyenne des carrés de la rentabilité et moins le carré de la moyenne de la rentabilité. on vient de calculer la rentabilité, la moyenne, de la rentabilité. On vient de dire, ça fait par exemple ici 5,24%, ben, le carré de la moyenne, c'est 5,25 au carré. Et pour avoir la moyenne des carrés de quoi? Ben, des carrés de la rentabilité, RA carré, on a calculé RA, oui, il y a 3 RA carré, on fait la somme, on divise par 3, ça c'est la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. Et l'écart type, c'est la racine carrée de cette variance, tout simplement. Donc voilà, et après, pour faire simple et rapidement, conseiller Madame Daniel pour lui permettre de constituer un portefeuille avec un risque limité, ben, évidemment, là aussi, c'est pas rester logique et simple. Donc, pour diminuer son risque dans un portefeuille, évidemment, c'est diversifier le portefeuille. Et pour ça, moi, je peux vous proposer qu'elle achète d'autres titres que des actions, par exemple des obligations. Donc, ça permet de diversifier. Et si elle veut prendre absolument des actions, évidemment, qu'elle prenne des actions de titres négativement corrélés pour que si il y en ait un qui baisse, une rentabilité qui baisse d'un titre, si c'est négativement corrélé, ça voudra dire que normalement, si ce qu'on a observé s'applique, ça veut dire que la baisse d'un titre, de la rentabilité d'un titre est compensée par la hausse de l'autre. C'est ce qu'on appelle essayer de diminuer le risque, bien entendu. D'accord? Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Simplement, encore une fois, et vraiment, vraiment, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans le piège. Le piège dans cet examen, c'était de vouloir absolument commencer par le dossier à 11 points. Sous prétexte qu'il était celui qui rapportait le plus, et le piège c'était de rentrer dedans, et je suis sûr que ceux qui ont fait ça malheureusement, ils ont levé la tête au bout de 2 heures et ils n'avaient pas fait aucun des 2 autres sujets dossiers qui manquaient, c'est-à-dire l'investissement obligatoire et soit le financement, soit les actions. Et du coup, en une demi-heure, par contre, ça devenait difficile. Donc voilà, hein, c'est ça, rappelez-vous toujours, j'insiste lourdement, excusez-moi de répéter souvent les mêmes choses, mais ne tombez pas dans les pièges, surtout quand on vous a averti, on vous dit, voilà ce qui va arriver, sujet, verbe, complément. Vous voyez? Donc ne tombez pas dans ce piège là. J'espère que ça n'a pas été le cas pour l'énorme majorité d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Et à bientôt pour la suite. Au revoir.